Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Communautaire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Ecosia, le moteur de recherche éco-responsable, qui s'est donné pour mission de cultiver un monde plus durable sur le plan environnemental, social et économique. Et pour cela, elle reverse 100% des bénéfices à l'Action pour le climat, dont 80% pour financer des projets de reforestation situés dans des zones critiques de biodiversité. Pour nous en parler, j'ai la chance d'accueillir Juliette Chabot, responsable Ecosia France. Bonjour Juliette, tu vas bien ?
Bonjour, ça va et toi ?
Très très bien, merci. Alors Juliette, peux-tu nous parler d'Ecosia et nous dire comment cela fonctionne ?
Oui, tout à fait. Alors tu t'as fait, une super bonne introduction. Donc nous, Ecosia, on est un moteur de recherche à but non lucratif. Du coup, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on fonctionne comme un moteur de recherche classique, typiquement comme Google que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire qu'on génère de l'argent par les clics qui sont réalisés par nos utilisateurs sur des annonces publicitaires. Ce qui nous différencie grandement du coup des autres moteurs de recherche, c'est que nous, cet argent, on l'utilise pour financer des projets de reforestation qui sont situés en zone critique de biodiversité. Donc aujourd'hui, on plante dans une trentaine de pays, on est à 33 pays, qui sont répartis en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est et puis aussi en Europe.
Ces lieux-là, ils sont choisis vraiment spécifiquement pour répondre à des enjeux soit sociaux, soit économiques. C'est pas au hasard que vous avez ciblé ces pays-là ?
Ouais, tout à fait. Alors en fait, nous, quand on travaille toujours avec des associations partenaires. C'est pas les personnes qui travaillons chez Ecosia qui allons planter les arbres pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on n'est pas assez aujourd'hui. Ecosia, on est une centaine et puis parce qu'on peut pas connaître les spécificités qui sont propres à chaque région. Et ce sont ces associations qui nous permettent de nous assurer de planter les bonnes espèces, donc des espèces qui vont être endémiques, indigènes, peut-être de prioriser certaines espèces qui vont être en danger, et puis surtout nous assurer de bien nous inscrire dans les enjeux socio-économiques. Donc par exemple, typiquement en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, on vient travailler sur des problématiques d'insécurité alimentaire, là où en Australie, ça va être comment est-ce qu'on peut lutter contre les catastrophes naturelles récentes, à savoir les feux de forêt, et faire en sorte que ce soit des phénomènes qui se reproduisent plus.
Donc à la fois, il y a une question de choix des espèces à planter, mais aussi de s'insérer dans une problématique qui est locale et de s'inscrire aussi sur la durée.
Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que nous, on dit toujours, donc on est connu pour planter des arbres, mais nous, on dit qu'il y a, enfin, ce qui compte surtout que ce soit un arbre qui grandisse, qui croît. Et sur chacun de nos projets, on assure aujourd'hui un suivi qui est de 3 ans, donc pour nous assurer que cet arbre survit à son environnement. Mais ce qui va être en fait déterminant dans la survie de l'arbre, ça va être justement qu'il soit ancré de manière de la meilleure des manières là où il est planté. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le fait que ce soit la bonne espèce et qu'il soit inscrit dans son cadre de biodiversité, ça va jouer à 25% sur sa survie. Mais ce qui va vraiment être essentiel, c'est de s'assurer que cet arbre, il soit important aux yeux des communautés locales. C'est-à-dire que quand on travaille en Afrique, par exemple, le fait qu'en fait les fermiers locaux saisissent l'enjeu de l'arbre, voient l'importance que cet arbre va avoir sur le maintien de leur culture, sur le fait que leur culture va être en meilleure santé, sur le fait qu'ils vont produire plus, c'est ce qui va garantir en fait le fait que le fermier va s'assurer de la protection de cet arbre, va s'assurer qu'il ne soit pas dévoré par des espèces animales, va s'assurer qu'il ne soit pas coupé par des personnes qui travaillent sur son champ. Et donc le fait que cet arbre soit bien planté et que les populations locales en saisissent l'importance, c'est déterminant sur la survie de l'arbre.
Et du coup, ce que vous mesurez, vous, c'est uniquement si les arbres sont toujours présents et en bonne santé, ou d'autres facteurs plus sociaux et ou économiques?
Donc, on fait un peu des deux. Nous, on réalise des visites de terrain. Donc, on a une équipe chez nous qui s'appelle la Tree Planting Team, qui, en fait, s'assure de réaliser déjà ses partenariats avec ses associations dans un premier lieu et puis qui, ensuite, s'assure de faire ce suivi. Et donc, du coup, c'est ces personnes qui vont réaliser ce qu'on appelle des visites de terrain. Donc, on va carrément... là où on plante les arbres. Alors, c'est les partenaires qui vont venir nous emmener visiter les projets, enfin, certaines zones où on plante des arbres, mais nous, on va déjà s'assurer d'avoir, de faire une sélection, on va dire, aléatoire des zones qui sont plantées, c'est-à-dire que, bon, bah, on va pas forcément toujours aller voir les zones que le partenaire veut nous montrer. On va aussi s'assurer d'aller voir des zones, bon, bah, par exemple, que le partenaire n'avait pas forcément choisi pour s'assurer que les arbres, ils sont plantés correctement. Et puis ensuite, une fois qu'on est sur zone, on réalise, bon alors là ça devient un peu plus technique, mais une méthode qui s'appelle PCQ, qui nous permet en fait de calculer la densité des arbres plantés. Donc on va vraiment venir calculer le nombre d'arbres, mais on va également venir calculer ce qu'on appelle la régénération naturelle, donc voir le nombre d'arbres qui vont ensuite grandir sans l'action d'Ecosia. Donc en fait, nous, quand on plante un arbre, on vient restaurer la biodiversité également. Et en fait, le fait qu'on plante ces arbres va permettre en fait au sol de générer la croissance de nouveaux arbres qu'on n'avait pas plantés en premier lieu. Donc, on vient vraiment calculer ces deux facteurs-là.
D'accord. Et en amont de l'épisode, quand on parlait du podcast, tu me parlais d'un projet en Côte d'Ivoire sur les plantations de cacao, puisque les arbres, tu me disais, permettaient de refertiliser les sols pour que les cacaotiers soient en meilleure santé et améliorent les rendements et évitent l'utilisation de pesticides. Donc c'était aussi une mission qui avait pour vocation de rééduquer et de sensibiliser à l'importance des arbres et le fait d'arrêter de les couper et de faire comprendre qu'ils peuvent avoir un intérêt pour les productions. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous mesurez et qui est présent en fait dans chaque plantation que vous pouvez avoir?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est un projet qui est un peu particulier parce qu'en fait, finalement, les paysans en Côte d'Ivoire ont finalement toujours utilisé cette technique qu'on appelle la technique des arbres fertilitaires. Les arbres fertilitaires, ce sont des arbres qu'en fait on va planter au sein d'un champ qui vont avoir pour simple et unique mission de protéger les arbres qui sont cultivés. Donc nous, on plante deux espèces d'arbres fertilitaires qui sont le Stipulata et le Samanea. Et donc typiquement, il y en a un qui va avoir pour mission de capturer l'eau de pluie lorsqu'il pleut pour pouvoir garder cette pluie et pendant des périodes sèches permettre de réinjecter de l'eau dans les sols pour s'assurer que les cacaotiers aient finalement de l'eau tout au long de l'année. Et il y en a et le deuxième en fait va nous servir à protéger les cacaotiers des espèces d'insectes invasives qui vont venir détruire le tronc et détruire les fèves de cacao. Et en fait, cet arbre avec sa sève va attirer les insectes vers son tronc et les empêcher d'aller vers le cacaotier. Donc c'est finalement un pesticide, on va dire, naturel. Et ça, c'est des techniques qui ont du coup toujours été utilisées et qui ont arrêté d'être utilisées quand en période d'après-guerre, on est venu en fait, démocratiser l'utilisation des pesticides en Afrique, ce qui était quelque chose de très attrayant finalement pour les paysans locaux, parce qu'ils se sont dit, oui, c'est vrai que ça me permet de produire plus, mais finalement, c'est une vision qui va être très court-termiste, parce que effectivement, ça va être plus de fèves de cacao sur une courte durée, mais cette surgénération de cacao, finalement, c'est... va appauvrir les sols parce que ces pesticides, finalement, ça détruit la biodiversité, ça empêche les arbres de stocker l'eau naturellement. En fait, on se retrouve plus qu'avec des cacaoyers sur son terrain. Et du coup, en fait, le cacaotier, s'il peut pas se nourrir des autres espèces qui l'entourent, il est appauvri et puis in fine, passé 10 ans, il pourra plus rien cultiver. Et donc là-bas, il y a un véritable enjeu pour nous aujourd'hui de faire saisir aux paysans l'importance des herbes fertilitaires, mais également d'arrêter d'avoir cette vision en fait court-termiste, parce qu'il est important pour eux de comprendre que les pesticides, ils pourront pas ils pourront pas y avoir recours toute leur vie. Mais ce qui est en fait d'autant plus un enjeu là-bas, c'est que nous, pour le coup, on a accès à énormément d'informations, on a nos ordinateurs, on est sur les réseaux sociaux, on a accès aux médias d'information. Quand on travaille avec un fermier, finalement, qui est hyper reculé dans ses terres, lui, il n'a pas accès à toutes ces informations-là. Et puis, il repose vraiment sur les représentations des entreprises de pesticides qui viennent leur vendre le produit. Et puis nous, le travail qu'on fait avec notre partenaire local qui s'appelle la PAF, où on vient leur expliquer l'importance des herbes fertilitaires. Donc c'est un peu à eux de voir à qui est-ce qu'ils font confiance aussi. Et c'est pour ça que cette importance de cette histoire de sensibilisation est super importante, parce qu'au plus on va les voir, au plus on leur explique, au plus il y en a qui nous font confiance et au plus en fait ils voient leurs voisins paysans utiliser des herbes fertilitaires, au plus ils nous croient et on change finalement les consciences et la manière d'opérer sur le terrain.
Donc vous avez un vrai rôle d'accompagnement. Et dans le cadre du suivi de projet, tu indiquais qu'il y avait 3 ans de suivi. Si dans le cadre de ces 3 ans ou au bout de ces 3 ans, finalement le projet n'a pas été mené à terme, ou est-ce qu'il peut y avoir des sanctions si finalement les emplacements dans lesquels les arbres ont été plantés n'ont pas été bien entretenus. Est-ce que c'est les partenaires qui s'occupent après de faire en sorte que ces arbres soient toujours au bon endroit et en bonne santé pendant ces 3 ans?
Alors, ce qui se passe, c'est que nous, en fait, souvent, passé 3 ans, et c'est comme ça qu'on l'a déterminé, c'est que l'arbre a 99% de chances de survie. Après, c'est vrai que de toute manière, il y aura toujours un facteur. S'il y a un incendie volontaire qui est lancé, on pourra jamais être à 100% de garantie de survie d'un arbre. Mais passé ces 3 ans, si on a planté la bonne espèce, si on a eu cette opération de sensibilisation, il y a quand même de très très forts taux de survie. Nous, ce qui se passe, c'est qu'en général, on essaye au maximum de travailler avec les mêmes partenaires. Donc, c'est-à-dire que passé 3 ans, en fait, un projet est conclu, mais on va opérer d'autres projets dans la région. Typiquement, au Brésil, on travaille avec les mêmes partenaires depuis 2010, quasiment depuis la création d'Ecosia. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir toujours un regard un petit peu sur les zones où on a été présent. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'en fait, sur ces contrats de 3 ans qu'on a avec les partenaires, on va pas faire de visite avant le lancement du terrain, avant le lancement du projet, pardon, parce qu'en fait, nous, on mène déjà pas mal d'entretiens avec le partenaire. Donc, on s'assure toujours qu'il ait déjà, en fait, une ancienneté de 3 à 5 ans dans le domaine de la plantation. On s'assure de voir qu'ils sont alignés avec nos valeurs, que ce soit sur des questions de planter le bon arbre au bon endroit, sur des questions d'impact, mais aussi sur des questions purement de valeur, à savoir on empêche le travail des enfants, est-ce que on protège les femmes, est-ce que la création d'emplois pour les femmes, est-ce que c'est une priorité pour l'association dans la région, parce que ça c'est une très grosse problématique sur laquelle on travaille. Et puis, passé tous ces entretiens, en fait, on laisse le partenaire travailler pendant 1 an puisqu'il faut qu'il commence à planter les arbres avant qu'on aille vérifier que c'est bien fait. Et puis, c'est passé 1 an après le début du projet que nous, on effectue ces visites de terrain pour nous assurer que tout ce qu'on a défini dans le contrat est bien respecté, donc le bon nombre d'arbres est planté, que c'est fait dans des bonnes conditions. On vient faire toutes ces vérifications et puis en fait c'est passer cette première visite de terrain qu'on va pouvoir savoir ce projet finalement il marche pas, il va falloir l'arrêter passer les 3 ans. Finalement on avait dit qu'on allait planter 1 million d'arbres, typiquement ils les plantent pas, en fait ils vont peut-être en planter que 200 000, donc on va réactualiser les chiffres, etc. Donc c'est vraiment cette visite de terrain qui va être cruciale pour nous permettre d'être sûr que ce qu'on avait prévu de planter avec eux va véritablement être planté et dans de bonnes conditions. Après, Globalement, c'est quelque chose qui arrive peu. C'est arrivé sur quelques projets qui ont été effectués chez Ecosia. Mais finalement, c'est vraiment pas la majorité. Souvent, les partenaires travaillent bien et les arbres sont bien plantés. C'est fait dans le respect des termes du contrat. Après, on aura toujours des ajustements, hein, parce que de toute manière, aucun travail n'est forcément parfait du premier coup. Mais globalement, on est assez satisfait dans l'ensemble du travail de nos partenaires.
Ça, c'est vraiment le travail d'enquête, hein, en fait, qui détermine la réussite du projet.
Tout à fait.
Comment est née l'idée de créer Ecosia ?
Je pense que c'est une idée assez loufoque finalement, parce que c'est Christian Kroll qui est toujours aujourd'hui notre président, mais qui est le fondateur d'Ecosia, qui en fait a eu cette idée après des voyages. Donc lui, il est parti en Inde et au Brésil faire un voyage quand il avait 25 ans, de la même manière que beaucoup d'entre nous ont pu aller voyager. Mais sauf que lui, il est rentré avec un constat sur la déforestation. Il s'est rendu compte qu'on était en train, en fait, de couper nos arbres à une échelle massive, là où on commençait quand même à beaucoup parler de cette problématique du dérèglement climatique. Et il s'est rendu compte qu'il y avait, en fait, une véritable décorrélation entre ce qu'on disait et ce qu'on faisait. Et lui, il connaissait en fait l'importance de l'arbre. Et il s'est dit, mais en fait, sans arbre et au rythme auquel on va, on sera jamais capable de lutter contre ces problématiques et contre ces enjeux environnementaux qui vont être amenés à être de plus en plus grands finalement. Et donc, en fait, il a vraiment cherché à créer un modèle qui permettrait de planter des arbres à grande échelle. C'est-à-dire que ce serait pas juste lui qui irait dans son jardin planter 3 arbres, mais c'est vraiment poser la question de « Ok, comment est-ce qu'on peut créer un modèle qui permettrait de planter des millions d'arbres et sur la plus grande superficie possible ?» Et en fait, il se trouve qu'il avait déjà travaillé dans le domaine du numérique et de la technologie. Et il savait que le modèle financier des moteurs de recherche était un modèle qui était extrêmement vertueux, que la part du numérique était vouée à augmenter. Et donc, il s'est vraiment demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas, en fait, tout simplement créer un moteur de recherche, mais dont la réussite ne serait pas basée sur le profit et dont la vraie richesse ne serait pas basée sur le profit, mais plutôt sur le nombre d'arbres plantés. Et est-ce qu'on pourrait pas créer un modèle dont finalement le but serait pas l'enrichissement personnel, mais véritablement la défense de la planète, que ce soit en termes de préservation de la biodiversité, mais également dans une démarche de protection des communautés locales. Et donc du coup, c'est un peu c'est comme ça que c'est né, et je pense que c'est un modèle qui, c'est pour ça que je dis que ça devait être loufoque, notamment, déjà que ça l'est aujourd'hui, je pense d'autant plus en 2009 au moment de la création d'Ecosia, parce que c'est vraiment un modèle qui, dans un système capitaliste, dit, en fait, non, le profit, c'est pas ce qui compte, à un moment où tout le monde est en quête de profit.
Ecosia, c'est une entreprise qui est allemande, le fondateur est allemand, c'est une entreprise qui est présente, les moteurs de recherche sont présents dans tous les pays.
Oui, on est, donc Ecosia, ça a été créé à Berlin. Aujourd'hui, le siège social est toujours à Berlin. On est sur les 100 qui travaillent aujourd'hui pour Ecosia. On est un peu plus de 90 à être basé à Berlin. Et puis après, avec quelques petits éléments qui sont détachés, comme moi, par exemple, qui suis du coup en France, comme je travaille pour le marché français. Mais sinon, ça a toujours été une entreprise allemande. Cela dit, on est disponible dans le monde entier, hein. Donc aujourd'hui, qu'importe l'endroit où on se situe dans le monde, du moment où on a du réseau, on a accès à Ecosia, sachant qu'on a quand même 4 marchés principaux qui dominent un peu, qui sont du coup l'Allemagne, la France, l'Angleterre et les États-Unis, où on compte le maximum, le plus de trafic et d'utilisateurs.
Parle-nous des utilisateurs en France, qu'est-ce que ça représente?
En France, alors aujourd'hui, on a à peu près 4 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est vrai que ça aussi, par certains mois, on est un peu au-dessus de 4 millions, parfois on repasse à 3 millions 9, mais globalement, on est autour des 4 millions d'utilisateurs actifs par mois, ce qui, tous nos utilisateurs, est en fait assez important, parce qu'on compte aujourd'hui 15 millions d'utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, au-delà de ce nombre d'utilisateurs, on a la ville qui génère le plus de recherches, qui est Paris. Hein. Aujourd'hui, les personnes basées à Paris sont ceux qui génèrent le plus de recherches par rapport aux utilisateurs basés à Berlin, ce qui est rigolo quand on sait que du coup, Ecosia vient de Berlin. Mais on a aussi nos utilisateurs dans le sud de la France qui génèrent énormément de recherches et qui sont une base d'utilisateurs très importante pour le marché français. Et globalement, ce sont des utilisateurs qui sont assez jeunes. On remarque qu'on a 80% de nos utilisateurs qui ont moins de 30 ans, avec une grosse majorité qui a entre 18 et 24 ans. Donc, on voit vraiment...
Pour une raison particulière, tu penses ?
Je pense que déjà, il y a le fait que ce soit peut-être un outil numérique et que la recherche d'alternatives va peut-être être... la conscience d'alternative au niveau des outils du numérique est peut-être plus forte chez cette population. Mais il y a surtout une idée et qui, je pense, fait rupture en 2019 où, en fait, nous, en 2019, notre base d'utilisateurs, elle a triplé. Et si on y repense, 2019, ça a été vraiment un moment qui a été hyper important pour la jeunesse et le climat. C'est un moment où l'émergence de Greta, on a des mouvements comme Fridays for Future, on a Youth for Climate, on a tous ces mouvements qui prennent de plus en plus d'ampleur. Je pense que au-delà d'avoir un ras-le-bol en fait des jeunes qui voient la responsabilité des anciennes générations et qui les voient pas agir, qui se disent en fait on en a marre. Et puis en fait oui nous aussi on a le moyen d'agir. Et ça passe par plein de choses, ça passe par ces marches, ça passe par le boycott de certaines marques, ça passe par l'augmentation en fait des petits gestes du quotidien. Et en fait, c'est-à-dire que je pense que c'est une génération qui a arrêté de se dire on remet la faute sur l'autre. C'est-à-dire que avant, on avait un peu les individus qui disaient oui, mais c'est les entreprises. Moi, au final, je peux changer mes gestes quotidiens, mais c'est pas ça qui va faire vraiment la différence. Là où les entreprises, disaient non, mais c'est à vous. Enfin, on a la fameuse théorie du pollueur-jeteur. Et puis finalement, je pense que c'est vraiment une génération qui a dit non, mais en fait, on arrête, c'est la faute de tout le monde. Et puis en fait, il faut que les politiques agissent, il faut que les individus agissent, il faut que les entreprises agissent. Et c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire quelque chose.
Aujourd'hui, concrètement, Ecosia, c'est combien d'arbres qui ont été plantés?
Alors là, on a passé le cap des 140 millions d'arbres plantés au moment de Noël. Sachant qu'on a en fait une croissance exponentielle qui fait que on plante de plus en plus d'arbres et de plus en plus rapidement. Il faut savoir que du coup ça nous a pris quasiment 10 ans pour planter 100 millions d'arbres parce qu'on a passé le cap des 100 millions d'arbres plantés en juillet 2020. Et puis là finalement en un an on a planté 40 millions d'arbres. Donc, on est sur un rythme qui s'accélère de par cette augmentation du nombre d'utilisateurs et je pense l'envie aussi à la fois s'engager pour des comportements qui vont être de plus en plus verts au quotidien, mais aussi sur simplement des questions du numérique où on commence à avoir des consommateurs qui commencent à aussi avoir un ras-le-bol des monopoles, qui commencent à en avoir marre de voir leurs données être utilisées et qui cherchent en fait des alternatives. Et je pense qu'on se trouve un croisement de deux choses qui font qu'on a de plus en plus d'engagement sur notre plateforme.
Et donc concrètement, pour les utilisateurs qui voudraient passer sur Ecosia, faire toute la recherche web sur Ecosia, comment ils font concrètement?
C'est assez simple finalement. Donc soit on a deux possibilités, soit on peut utiliser Ecosia sur son ordinateur ou sur son téléphone ou les deux. Dans le cas où c'est sur son ordinateur, il suffit juste d'aller sur ecosia.org et puis il y a un petit bouton qui propose d'ajouter Ecosia en plugin à son navigateur. Et puis à partir de ce moment-là, en fait, bah, toutes vos recherches s'effectuent automatiquement sur Ecosia, avec bien évidemment hein, le but c'est pas d'imposer Ecosia, donc si nos utilisateurs souhaitent faire pour une ou deux recherches passer sur un autre moteur de recherche, il y a toujours la possibilité de le faire hein. Mais à partir du moment où en fait on ajoute Ecosia à son navigateur, on a son propre compteur d'arbres qui nous permettent de voir le nombre d'arbres qui sont plantés au fur et à mesure de nos recherches et des clics sur les annonces publicitaires. Donc ça c'est tout simple. Et puis sinon
ouais, on peut dire que 45 recherches équivaut à un arbre qui est planté. C'est à peu près ouais, ça, le
tout ratio. À fait. Tout à fait. Parce que ce qui est important, c'est que, alors, on dit une recherche en arbre, mais en réalité, c'est vraiment c'est un clic sur les annonces publicitaires qui permet de planter un arbre. Parce que quand si c'est pas une annonce, nous, finalement, on génère pas d'argent derrière. Et puis, en fait, en regardant les comportements des utilisateurs, on s'est rendu compte que c'est toutes les 45 recherches qu'il y a un clic qui est effectué sur une annonce publicitaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit 45 recherches pour un arbre planté. Et puis ensuite, oui, on a aussi une application sur iOS et Android qui permet de planter des arbres en surfant sur son smartphone également.
Alors, l'industrie du numérique, elle est quand même très énergivore. Aujourd'hui, j'imagine que l'objectif, c'est aussi de continuer à faire grandir la communauté parce que c'est un vrai enjeu de reforestation. Néanmoins, si l'afflux des recherches génère davantage de CO2, comment on finit par compenser finalement cette énergie qui est consommée via le numérique?
Ouais, c'est une question qui est, je pense, d'autant plus importante que souvent les gens ne s'en rendent pas compte. En fait, il y a quelque chose d'assez enclin au numérique, que c'est assez éphémère finalement, et quand les personnes sont en train de scroller, j'en sais rien, sur des réseaux sociaux, qu'on fait bah, typiquement une recherche, qu'on envoie un mail avec une pièce jointe, on se rend pas forcément compte que c'est du contenu qui est stocké dans des data centers et que ces data centers, bah, en fait, s'attirent pendant 24 heures sur 24 sur de l'énergie qui est pas souvent de l'énergie propre. Et c'est clairement une vraie problématique, d'autant plus que, comme tu le dis, il y a une part du numérique qui est amené de toute façon à grandir, et surtout, je pense en ce moment, alors qu'on passe plus de temps à la maison, ça accélère la croissance du numérique. Nous, ce qu'on a commencé par faire, tout d'abord, ça a été en fait on s'est rendu compte de l'importance déjà de reposer sur les énergies renouvelables. On a en fait beaucoup de data centers reposent sur l'énergie fossile, donc de l'énergie qui n'est pas propre. Nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de contrer. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compense en fait les énergies, enfin toute l'énergie qui est générée par la recherche de nos utilisateurs grâce à l'énergie renouvelable. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a construit une ferme de panneaux solaires en 2017 qui, au début, nous permettait de compenser 100% de l'énergie servant à alimenter les recherches de nos utilisateurs. Aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans une démarche où on cherche toujours à aller plus loin, on produit 200%, voire même le triple en 2021 de l'énergie dont on a en réalité besoin. Et ce surplus d'énergie qu'on produit, en fait, on le réintègre dans des circuits d'énergie verte en local pour nous permettre d'alimenter les régions autour de nos bureaux en énergie verte. Donc aujourd'hui en Allemagne.
Vous allez beaucoup plus loin que la neutralité carbone, parce que la neutralité carbone, c'est le fait de compenser ces émissions CO2 avec des énergies qui sont propres, mais qui peuvent être ailleurs, et qui n'empêche pas que plus ça grossit, plus en fait finalement on vient juste compenser, mais pas forcément réduire, alors que vous êtes vraiment sur des énergies qui sont propres. Donc est-ce qu'on peut parler de carbone free dans ce cas-là?
Alors nous, on emploie l'expression carbone négatif. Donc c'est vraiment l'idée en fait de dire que en fait la neutralité, c'est pas assez finalement, parce que finalement on on pollue, on a des modèles qui sont polluants et il y a une véritable problématique de décarbonation en fait la compensation c'est juste pas assez, c'est-à-dire qu'on est allé tellement loin dans la pollution de notre atmosphère et la destruction de la planète qu'aujourd'hui dire qu'on est neutre pour nous c'est même pas que c'est pas ambitieux, c'est que c'est même pas le minimum syndical, on va dire. Et d'autant plus quand on voit qu'il y a certains objectifs de neutralité carbone qui sont fixés à 2030, 2040, voire même 2050. Mmh. En fait, il y a une véritable question qui va être de dire que aujourd'hui, on n'a pas le temps et qu'en fait, il faut agir et puis qu'il faut agir maintenant. Et de la même manière, nous, on part du principe que nos arbres peuvent pas être utilisés dans des démarches de compensation carbone non plus,
puisque ouais, c'est la question que j'avais posée.
Ouais. Qui ont en fait finalement vertu à restaurer les écosystèmes, régénérer les écosystèmes, qui sont là pour les populations locales, qui sont là c'est une action positive, c'est un plus, et ils sont pas là pour donner un droit à polluer. Donc nous, on travaille par exemple avec des entreprises. On a ce qu'aujourd'hui on s'est lancé dans. En fait, on se porte maintenant prestataire pour des plantations d'arbres pour des entreprises. Ce qu'on voit, en fait, on s'est rendu compte qu'on voyait de plus en plus d'entreprises qui voulaient planter des arbres. On s'est rendu compte que c'était souvent mal fait. Donc c'est-à-dire que c'était souvent pas la bonne espèce qui était plantée un peu n'importe comment. C'est-à-dire que si on dit on plante 500 000 arbres, mais on plante des eucalyptus en Normandie, et puis en fait on se retrouve à faire une monoculture d'eucalyptus en Normandie, finalement en fait ça sert à rien, c'est même fortement contre-productif. Donc bon, l'exemple est un peu gros, mais concrètement c'était un peu ça. Et puis en fait on s'est rendu compte aussi qu'il y en avait beaucoup qui utilisaient ça et qui mettaient en avant des bilans carbone qui sont mensongers, parce que finalement calculer un bilan carbone basé sur des arbres, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc nous on le fait pas, parce qu'en fait on finalement c'est jamais vrai à 100%, et puis c'est un droit à polluer, et pour nous on part du principe que nos partenaires peuvent pas se servir d'arbres pour dire ah bah oui alors OK je pollue, voici mes émissions, mais j'ai planté des arbres, donc c'est OK. Ça, pour nous, c'est pas... non seulement, c'est pas acceptable, mais c'est pas comme ça qu'on va avancer, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la crise climatique.
Et cette notion de neutralité carbone, c'est une définition qui reste universelle ou non ? Parce que, pour moi, la neutralité carbone, c'est quand on vient faire un calcul qui consiste à déduire le CO2 capturé par celui qui est généré. Mais est-ce que cette définition, elle est universelle ou est-ce qu'elle est vraiment propre à chacun et chacun se débrouille finalement à intégrer ce qu'il souhaite pour afficher une neutralité carbone dans un argument de marketing ?
Ouais, je pense que dans l'idée, c'est à mon avis une définition qui est universelle. Après, c'est vrai que dans les faits, faut voir comment est-ce que c'est appliqué. Et puis finalement, exactement comme tu le dis, il y a des rhétoriques qui peuvent être très marketing, dans le sens où en fait on affiche un bilan carbone, mais au final les émissions carbone sont jamais vraiment détaillées. Est-ce que c'est un objectif? Quelle est la date de l'objectif? Dans quelle mesure, par exemple, nous, quand on compense nos émissions, on compense à la fois ce qui va être l'alimentation liée aux recharges de nos utilisateurs, mais également ce qui va servir à, enfin, l'énergie qui alimente nos bureaux. Enfin, en fait, c'est à peu près toute l'énergie qui est alimentée par Ecosia en général, en global. Mais en fait, si on le précise pas, on ne sait pas, en fait, quand on dit 200%, ce à quoi ça réfère. Donc, il y a, je pense, une zone de flou qui peut être mise en avant par certaines entreprises à leur avantage. Donc, il faut être très précautionneux quand on regarde les bilans carbone, la neutralité mise en avant par chaque entreprise.
Ouais, d'ailleurs, l'ONG Greenpeace a mis en place, je crois que c'était 2017, je le remettrai dans les notes de l'épisode, un rapport qui donne des notes, en fait, et qui avait passé au crible tous les géants Internet, mais du coup, qui avait vraiment attribué les notes sur des critères qui sont plus tangibles que ceux qui sont juste affichés comme un argument parfois artificiel, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui va être presque politique, où nous, ce qu'on met en avant et ce qu'on dit, c'est pourquoi on se permet de critiquer d'autres modèles du numérique, c'est qu'on va dire, ok, vous mettez en avant des objectifs de neutralité carbone, mais encore une fois, c'est pas assez. On peut pas se permettre d'être simplement neutre. Et notamment quand on est un géant du numérique comme Google, c'est-à-dire que on a des moyens qui sont tels qu'ils ont ou un Amazon, ils ont vraiment finalement entre les mains la possibilité et l'argent de faire de grandes choses. Et nous, ce qu'on critique, c'est véritablement ça, c'est qu'on dit nous, si on a un modèle, si déjà juste avec notre modèle et nos 1% de part de marché, on peut planter autant d'arbres, on peut avoir un tel impact. Qu'est-ce que ce serait si on était une entreprise à 92% de part de marché ?
Tu parlais de transparence tout à l'heure. Vous, c'est quelque chose qui est présent partout chez Ecosia, sur tous les bilans, sur toute la manière dont vous communiquez.
Ouais, on est. En fait, on pense que c'est juste hyper important. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on voit pas mal d'histoires liées au numérique, quand on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne payent pas leurs taxes, quand on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones de flou, en fait, nous, on a envie de montrer qu'il y a, au-delà de ces questions de profit et qu'on doit sortir des logiques de profit, en fait, on part du principe qu'on a juste... moyen de mieux faire et sur tous les points. Donc, pour nous, il est hyper important d'être transparent. Et puis, ensuite, on est une entreprise à mission. On est à but non lucratif. Donc, on a besoin de prouver à nos utilisateurs qu'ils ont raison de nous faire confiance. Et en fait, pour ça, on publie mensuellement tous nos rapports financiers. Donc, en fait, on a un blog sur lequel en fait on a énormément de contenu. On parle de tous nos projets, ce qu'on fait. On a plein de petits documentaires. On parle également de plein de sujets qui sont en rapport en général avec la crise climatique. Et on a également ces contenus du coup qui sont vraiment purement financiers, où on met en avant combien d'argent est-ce qu'on a gagné chaque mois, combien est-ce que on a alloué à la plantation d'arbres, combien d'arbres est-ce que ça nous a permis de planter, quels projets ont été financés. Parce que selon les périodes de plantation qui changent d'un pays à l'autre, selon les périodes de l'année, etc., on ne finance pas tous les projets chaque mois de la même manière. Donc voilà, ça c'est indiqué. Combien est-ce qu'on attribue au marketing, combien pour des coûts opérationnels, donc typiquement les taxes, les locations des bureaux, etc. Donc on met vraiment en avant tout ça. Et puis ce qui prouve que c'est un contenu qui est vraiment essentiel, c'est que du coup, par rapport à toute cette masse de contenu qu'on a, c'est notre contenu qui est aujourd'hui le plus consulté par nos utilisateurs. Donc, ça prouve qu'il y a cette curiosité et cette importance, en fait, de prouver que, oui, on dit qu'on fait bien les choses et on va jusqu'au bout de la démarche.
Comment vous rémunérez, alors, uniquement avec les annonces publicitaires ?
Alors, sur ce qui est lié à la recherche, oui, donc, dans un premier lieu, Ecosia, c'était 100% de nos revenus, c'était lié aux clics sur les annonces publicitaires. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité déjà de planter beaucoup plus d'arbres. Qu'on avait, avec tous ces partenaires qu'on a, on peut juste planter davantage d'arbres. Donc, on a eu ensuite cette question de se dire, comment est-ce qu'on peut, nous, de notre côté, générer plus d'argent ? Et en fait, une des premières manières qu'on a eues de répondre à cette question, ça a été de créer une plateforme de vente d'arbres pour nos utilisateurs. En fait, on a eu beaucoup d'utilisateurs qui nous disaient « Ouais, je plante plein d'arbres, c'est génial avec mes recherches, non, mais je veux en planter plus, comment est-ce que je peux faire ?» Et en fait, c'était en 2020, à l'occasion du coup du Black Friday et de Noël, qu'on s'est dit « Bon, est-ce qu'on lancerait pas une boutique éphémère d'arbres où les gens pourraient acheter des packs d'arbres par 5, par 10, par 20, par 40 et pour la cause qui leur plaît. Donc comme on disait en début d'émission, chaque projet a des causes un peu spécifiques. Donc tu vois, on pourrait acheter 5 arbres pour lutter contre l'insécurité alimentaire, 10 arbres pour la protection des animaux, etc. Et puis en fait, cette plateforme qu'on voulait laisser de manière éphémère en ligne juste pour Black Friday et Noël en 2020, finalement, en fait, on l'a jamais fermée. Et elle est encore ouverte aujourd'hui parce que en fait elle a eu juste beaucoup trop de succès. Il y a eu énormément, il y a eu un très très fort engouement de la part des utilisateurs. Et du coup c'est quelque chose qui tourne, qui du coup aujourd'hui a une source de revenus additionnelle. Et puis on a de la même manière, mais du coup un peu pour les entreprises, comme je disais tout à l'heure, ce nouveau service de reforestation pour les entreprises, où du coup on se porte garant auprès des entreprises de planter des arbres pour eux. Mais alors ces arbres-là qu'on plante avec les entreprises rentrent pas dans nous notre compteur d'arbres qu'on voit et qui est affiché, parce qu'on part du principe que c'est des arbres qui sont plantés pour les entreprises et qui donc du coup a posteriori leur appartiennent. Mais c'est quand même des arbres qui sont plantés avec nous.
Oui, c'est juste un projet additionnel d'accompagnement pour s'assurer qu'il soit fait dans les bonnes conditions, et puis certainement un message aussi de rassurance, parce qu'en tant que consommateur, quand on est assez sensible à ces engagements-là, on s'assure aussi que finalement le projet soit juste un argument publicitaire, mais simplement un vrai engagement de la part des entreprises, et on s'assure que ça soit mené dans les bonnes conditions.
Tout à fait, ouais. Et puis après, même au-delà de ça, finalement, et puis c'est ce qu'on disait un peu en intro, enfin en parlant d'Ecosia, c'est que en fait, on a un moteur de recherche, mais finalement, c'est un peu la forme que ça a pris, et c'est un outil avant tout, et ça aurait pu être plein de choses. Nous, quand on parle d'Ecosia en interne, on voit surtout Ecosia comme un mouvement finalement pour la planète et comme une action communautaire. Parce que quand on parle des arbres plantés, c'est pas juste nous le moteur de recherche, mais c'est vraiment en fait les personnes qui bossent chez Ecosia, les utilisateurs, parce que si on n'a pas d'utilisateurs pour faire les recherches, finalement en fait il y a pas d'argent qui est généré. C'est les associations sur le terrain avec lesquelles on plante. C'est vraiment toutes ces personnes qui permettent de faire en sorte que Ecosia, ce soit une machine qui marche et qui nous donne aujourd'hui des moyens et des clés pour développer en fait le produit en dehors et ce qu'on est en dehors de simplement être un moteur de recherche. En fait, finalement, toutes ces pistes qui sont développées, c'est parce que c'est des idées qui nous sont données par nos utilisateurs aussi.
Et la boutique d'arbres, elle est présente sur le blog, sur le site Ecosia. Où est-ce qu'on la retrouve?
C'est un site à part entière qui s'appelle plant.ecosia.org.
Oh, super, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Puis c'est vrai que ça peut faire aussi des bonnes idées cadeaux, mais ça m'est déjà arrivé. Alors, en l'occurrence, pour la période de Noël, vous savez, dans les entreprises, il y a souvent ce secret de Santa, on tire au sort un collaborateur et on doit offrir un cadeau, on a quelques jours pour trouver un cadeau. C'est hyper délicat de trouver quelque chose qui plaît à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et moi, ça m'a toujours embêté d'acheter quelque chose en me disant, ça va peut-être finir à la poubelle. Je crois que c'est un achat qui était complètement, du coup, inutile. Et souvent, j'avais effectivement fait cette démarche d'acheter un bon pour planter un arbre, du coup, auprès d'associations qui œuvraient pour la reforestation, pour dire, en fait, au moins, il y a quelque chose de concret derrière et ça va être un cadeau qui ne peut pas être perdu, quoi. Donc, voilà, ça peut être effectivement des bonnes idées pour tout un chacun.
Même dans un cadre familial, tu vois, on a tous, j'en sais rien, la nouvelle personne arrivée dans la famille, tu vois, le copain de ta sœur ou quoi, qui tu sais pas forcément quoi offrir, ça fonctionne aussi.
Exactement. la protection des données, c'est un sujet ou c'est pas un sujet, John ?
C'est un gros sujet. C'est hyper important. Je pense que c'est un peu la même problématique que toutes les questions d'empreinte carbone dans le numérique. En fait, c'est que aujourd'hui, c'est, je pense, c'est un devoir pour les entreprises que de protéger les données de leurs utilisateurs. Nous aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, en fait, toutes les recherches qui sont effectuées sur Ecosia sont anonymisées. Donc tu vois, enfin moi quand je fais une recherche sur Ecosia, il y a rien qui permet de dire ah bah c'est Juliette Chabot basée à Paris qui a fait cette recherche. Les adresses IP sont masquées. Il n'y a pas de données qui sont stockées, il n'y a pas de données qui sont vendues. La seule chose qu'on fait, parce que effectivement on utilise un outil de tracking, mais alors cet outil de tracking déjà, il a été développé en interne chez Ecosia pour éviter de reposer justement sur des plateformes type Google Analytics qui au final reviendraient au même que revendre les données. Donc on a vraiment notre plateforme à nous qui nous permet uniquement de surveiller le nombre d'utilisateurs qu'on a. C'est ce qui me permet en fait de dire nous en France on a 4 millions d'utilisateurs, elles viennent de Paris et du sud de la France. En fait, c'est simplement pour avoir nous nos données utilisateurs et puis pour savoir le nombre de clics qui sont effectués sur les annonces pour ensuite calculer combien d'argent est-ce qu'on a gagné etc. Donc c'est vraiment le strict minimum pour nous qui nous permet juste de fonctionner d'un point de vue opérationnel. Mais encore une fois, même ce peu de tracking qu'on fait et qui reste chez nous, on laisse aux utilisateurs la possibilité de le désactiver. Donc demain, je suis un utilisateur, j'ai pas du tout envie que ce soit utilisé, je peux dire non à tout tracking aussi minime soit-il déjà. Après, c'est vrai que nous, quelque chose qu'on met pas forcément en avant chez Ecosia. On met surtout en avant cette action pour le climat. Maintenant, c'était parce qu'on partait du principe qu'en fait, comme je disais, c'était le béaba pour une entreprise en fait de protéger ses utilisateurs. Cela dit, je pense que c'est un message qui dans les années à venir, on va mettre de plus en plus en avant parce qu'on voit qu'il y a quand même un intérêt grandissant pour ces problématiques-là chez les utilisateurs du numérique européen et notamment en France. Et puisque c'est quelque chose qu'on fait bien, je pense qu'on devrait juste en parler un peu plus.
Et est-ce que ça a un impact sur la pertinence des recherches, le fait justement d'anonymiser toutes les recherches qui sont faites?
Non, ça change rien du tout. Ça fait juste qu'à la rigueur, nous, on n'a pas d'informations à revendre. Donc... En fait, je pense que c'est un manque à gagner pour les entreprises côté du numérique, mais ça influe pas sur les types, sur les recherches, en tout cas du côté utilisateur, ça influe pas.
Très bien. Quel est ton plus gros challenge du moment?
Chez Ecosia?
Ouais.
Ou dans ma vie? Je pense que chez Ecosia, on a passé un peu un cap, qui était celui du coup des 4 millions d'utilisateurs. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur ces 4 millions d'utilisateurs, en fait, c'était une base qui était déjà très engagée. Donc, tu as 54% des utilisateurs qui sont en fait, qui sont également engagés auprès d'une association ou pour une cause en plus de leur utilisation d'Ecosia. Et donc, je pense que la base un peu écolo engagée utilise déjà Ecosia ou du moins en fait connaît Ecosia. Et donc, on a vraiment aujourd'hui cette problématique de comment est-ce qu'on adresse un public qui va être un peu plus mainstream, un peu plus grand public. Comment est-ce qu'on arrive à parler peut-être à la personne qui serait un peu moins engagée, à la personne qui a entendu parler du dérèglement climatique, mais qui n'est pas hyper convaincue, à celle qui ne sait pas par où commencer. Je pense qu'il y a toute cette audience qui serait assez friande de l'utilisation d'Ecosia, mais qui connaît pas ou qui sait pas qu'en fait on peut aussi avoir le droit à une alternative. Donc, je pense que le gros challenge là maintenant et pour les années à venir, ça va être justement d'aller vers ces personnes qui sont pas encore engagées pour le climat ou qui sont en recherche de gestes à incorporer au quotidien.
Et quelle est la vision d'Ecosia? Est-ce qu'il y a un objectif qui a été fixé?
Alors, on parle pas d'objectif clair, on n'a pas un nombre d'arbres visé à un certain nombre d'années. Nous, en fait, on veut maximiser le nombre d'arbres qu'on plante. Donc là, quand on a vu qu'on pouvait planter 40 millions en un arbre, en fait, on veut juste voir une accélération de ce nombre d'arbres, on veut voir une augmentation du nombre d'utilisateurs. Ça, c'est sur l'aspect plantation. Ensuite, on veut voir une remise en cause des entreprises, on veut voir des entreprises qui décarbonent, on veut voir des entreprises qui cessent de prôner avant tout l'enrichissement personnel. On veut voir une véritable remise en cause des modèles économiques, je pense, des entreprises. On veut des remises en cause politiques. Nous, je sais qu'on attaque beaucoup le monopole de Google. On a pas mal travaillé avec la Commission européenne là-dessus et les autres moteurs de recherche alternatifs. Je pense qu'en fait, nous, ce qu'on veut simplement, c'est une action positive et du changement. Et du coup, on veut tout et le plus rapidement possible finalement.
Et c'est en ça que vous avez créé le World Fund, qui est l'investisseur des startups européennes qui élabore des solutions technologiques pour lutter contre le changement climatique.
Totalement. Alors en fait, le World Fund, il y a un rapport un peu spécial avec Ecosia, parce qu'aujourd'hui, ça fait pas vraiment partie d'Ecosia, mais en gros, Christian, du coup, notre fondateur, est un des principaux investisseurs dans le World Fund. Et en fait, ils ont été incubés chez nous au début pour le lancement. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y avait beaucoup d'investissements pour beaucoup d'entreprises, mais qu'en fait l'investissement et le soutien aux startups engagées et durables en fait était trop minime, et notamment en Europe. Et donc du coup, c'est pour voir effectivement cette accélération dans ce domaine que le World Fund a été créé. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes entreprises qui font appel à Ecosia pour un peu comme du mentoring quoi finalement. Donc c'est clairement dans cette lignée que ça a été lancé.
Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'établir le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre?
Ouais. Tout à fait. C'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je pense la multiplication aussi des modèles. Je pense qu'il y a un véritable enjeu en fait à chercher des modèles qui sont peut-être déjà existants et en fait les reformater pour le climat. Typiquement, ce qu'Ecosia a fait avec les moteurs de recherche. Donc, il y a une réduction, certes, des émissions, mais également des développements, enfin un développement de nouveaux modèles plus verts et plus durables. Et prouver que c'est possible aussi.
Oui, carrément. Et quelle est ta vision à toi d'un monde meilleur?
Moi, je trouve qu'on est finalement, et que ce soit pour le climat, que ce soit pour des enjeux qui vont être plus sociaux, en fait, on est très individualiste. Et moi, je trouve qu'un monde meilleur se caractérise avant tout par en fait un monde plus empathique et qui ferait plus attention à l'autre. Parce que finalement, sur un point de vue, on va dire environnemental, on voit qu'au final, les plus grands responsables du dérèglement climatique, c'est ce qu'on appelle les pays du Nord. Je ne sais plus si ça se dit encore, mais voilà, typiquement. Des pays occidentaux et puis des pays orientaux comme typiquement la Chine. Et finalement, ceux qui en paient les conséquences et qui paient les pots cassés, c'est surtout les moins responsables, typiquement des pays en Afrique. Tu vois, on parlait de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils se sont déjà pris un réchauffement de 2 degrés. Avant, ils avaient une grande saison des pluies et une petite saison des pluies. Aujourd'hui, en fait, ils sont incapables de savoir quand est la saison des pluies parce que c'est juste... toute l'année. Et il y a un moment où, alors oui, c'est vrai, quand on a été habitué à vivre d'une certaine manière, c'est compliqué de forcément renoncer à certaines choses parce qu'on se dit qu'en fait, il y a quelqu'un qui habite dans un autre continent qui a besoin qu'on arrête de consommer de la sorte, mais en fait, c'est juste nécessaire. Mais je pense que ça va soit pour à la fois des enjeux environnementaux, mais également, tu vois, sur des questions de remise en cause de modèles. Bon, là, c'est un autre débat, mais de modèles hétéro-patriarcales, tu vois. Pour moi, c'est des mêmes rhétoriques où, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte qu'on a un autre qui est en face de nous. Et on a quelqu'un de différent qui a différents problèmes et enjeux. Et il faut que ces personnes soient prises en compte de manière égale.
Quels sont les gestes green, toi, que tu as pu mettre en place au quotidien et que tu aimerais nous partager ?
Aujourd'hui, je pense que c'est plein de petites choses. La première chose, toute première chose que j'ai faite, je pense, comme peut-être pas mal de monde, ça a été de m'acheter une gourde et une petite cup à café, voilà, que j'emmène un peu partout. Ça a été, je pense, les premières choses. En second plan, ça a été de faire mes produits ménagers moi-même. Parce qu'en fait, finalement, ça prend pas beaucoup de temps, parce que souvent, ça se réduit à du vinaigre et du bicarbonate de soude et des copeaux de savon de Marseille. Donc, en fait, c'est assez simple à faire. C'est quand même vraiment meilleur et pour la planète et pour la santé. Et puis, en soi, voilà, c'est rapide et puis on peut même le faire de manière ludique. C'est-à-dire que moi, j'avais une copine qui faisait ça, où un dimanche par mois, elle invitait ses frères, ses sœurs et quelques copines, et puis ils faisaient des recettes tous ensemble autour d'un brunch, et puis à la fin, chacun repartait avec son produit pour le lave-vaisselle, pour la machine à laver, etc. Et donc du coup, ça permet de rendre ludique ces petits moments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais ? Je privilégie les voyages en train. Quand c'est possible, et je dis quand c'est possible parce que voilà, puis ça c'était quelque chose dont on avait déjà discuté ensemble, Pauline, mais voilà, je pense qu'il y a aussi une notion de privilège quand on pense aux petits gestes du quotidien. Hein, typiquement, voyager en train, je t'avais parlé, Pauline, d'un Bordeaux-Londres que je regardais en train et qui du coup allait me coûter 300 euros quand on voyait que t'avais un voyage en train qui allait coûter 22 euros. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai, je pense, la chance de pouvoir le faire, mais bon, bah voilà, quand on est une famille de 5, on peut pas toujours privilégier les voyages en train. Donc ça, je suis hyper consciente que c'est quelque chose qu'on peut pas toujours faire, mais dans la mesure du possible, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Et puis après, des choses, je pense, assez simples, comme éteindre la lumière quand je suis pas dans une pièce, essayer de réduire au maximum mes déchets. Je pense qu'il y a pas mal aussi d'utilisation au niveau du numérique. Je me désinscris comme je peux des newsletters que je lis pas. Ça paraît être rien du tout, mais en vrai, c'est un geste qui compte. Et je pense qu'il y a aussi les marches pour le climat auxquelles je participe et pas mal de sensibilisation aussi autour de moi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui croient pas trop à ces histoires de dérèglement climatique. Et du coup, ça, rien que ça,
c'est un challenge.
C'est une grande lutte chaque jour, ouais.
Et puis, bien sûr, j'imagine que tu utilises aussi Ecodia pour tes recherches sur Internet.
Tout à fait.
Et quelles sont tes sources d'inspiration pour progresser sur tous ces sujets-là ?
J'essaye de pas mal m'informer, que ce soit, enfin, en fait, pas mal sur les réseaux sociaux, surtout.
Ouais.
Ce qui est rigolo quand je disais que les réseaux sociaux étaient quand même une force très émettrice de d'émissions carbone. Mais non, je suis pas mal de mouvements, typiquement des Youth for Climate, On est prêt en France, pas mal d'activistes, Camille Etienne, Cyril Dion, voilà, pour en citer des Français. Je sais que Socialterre, qui est un magazine, a coécrit le numéro de décembre et janvier, je sais plus, avec Camille Etienne, et c'est un numéro sur l'écologie avec beaucoup d'informations. Donc j'essaye un peu de surveiller ce qui sort et ce qui se fait en termes journalistiques pour m'informer. Je pourrais te donner la ref si tu l'as pas, Pauline, si tu veux le mettre dans les...
Ouais, je vois bien, comme ça on sera dans la description de l'épisode également. Ouais, tout à fait.
C'est vraiment très très chouette, avec beaucoup d'infos. Sinon, il y a un trimestriel qui s'appelle So Good, qui a été fait en collaboration avec les équipes du LUL et du groupe Sopress, qui est aussi un super média que j'utilise pour m'informer, parce qu'en fait, ils prennent un peu le contre-pied où, tu vois, souvent on a un œil un peu négatif et péjoratif sur ce qui se passe en disant le climat, etc. Eux, ils ont décidé de prendre le contre-pied et ils mettent en avant toutes les initiatives positives pour la planète, mais aussi positives socialement, etc. Donc c'est aussi intéressant, ça remet un petit peu de baume au cœur. Et puis sinon, ouais, oui, pas mal, je suis pas mal d'activistes, pas mal, je lis pas mal de bouquins. Je suis pas mal sur des questions écoféministes en ce moment. Donc, je suis Solène Ducréteau, par exemple, qui a sorti un ouvrage écoféministe. Il y a Reclaim que je lis. Enfin, j'ai toute une petite liste que je peux t'envoyer aussi.
Bah ouais, super. Comme ça, on mettra ça dans les notes. Et puis, on pourra effectivement découvrir toutes ces sources d'inspiration, toutes ces lectures que tu peux avoir. Et merci pour le partage.
Avec plaisir.
Je crois qu'il est temps qu'on passe au quiz final.
Allez, c'est parti.
Donc, l'objectif, hein, c'est que je te donne une série de questions et que tu puisses répondre le plus spontanément possible parmi les choix que je vais te proposer. Et je rappelle qu'il n'y a aucun jugement dans les réponses. Donc, sens-toi libre de répondre ce que tu veux.
Ça marche.
Si tu n'as rien dans ton frigo, tu as plutôt McDo ou Too Good To Go?
Ah, Too Good To Go.
Pour faire un cadeau, Emmaüs ou Amazon?
Emmaüs. Amazon, jamais. Ça fait 2 ans que je boycotte. Boycottez Amazon, s'il vous plaît.
Pour le lundi, c'était plutôt steak frites ou veggie Monday?
Il y a moyen qu'on soit sur un petit steak frites pour de la protéine, j'avoue.
J'ai dit pas de jugement, hein. Attention.
Ouais, ouais.
avant de t'endormir le soir, t'es plutôt Netflix ou un bon bouquin?
Netflix, j'avoue. J'ai du mal à lire.
Top, voilà, le quiz était vraiment très court pour aujourd'hui. Tu nous avais déjà donné quelques tips, quelques indices tout au long de l'épisode sur ta manière de voyager. Donc, il y a quelques questions que j'ai l'habitude de poser que je n'ai pas pu faire aujourd'hui sur les voyages parce que tu nous as déjà indiqué que tu privilégies en l'occurrence le train par rapport à l'avion. En tout cas, merci beaucoup d'être prêté au jeu du quiz. Merci pour nous avoir présenté l'ensemble du projet Ecosia. Donc, on rappelle ecosia.org pour installer le navigateur et que donc 45 recherches équivalent à un arbre qui est planté. Donc, allez-y, go, 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 go.
Merci beaucoup.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts, ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter, je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-to20.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prends soin de vous.